Et prochain rendez-vous avec l'information internationale dans un quart d'heure. On va parler de l'Ukraine dans le journal de Martin Guez. Mais d'abord à suivre notre invité Afrique, le ministre conseiller spécial du président centrafricain Touadéra. D'abord, on jette un œil ensemble à la presse africaine. Avec vous, Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour, Andréane, bonjour à tous.
À la une, Kabila, le paria.
Les autorités congolaises tirent à boulet rouge sur l'ancien président. Kinshasa annonce en effet, relève le site Actualité CD, l'ouverture de poursuites judiciaires contre Joseph Kabila, accusé de participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. Kinshasa ordonne aussi la saisie de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. Des mesures de restriction de mouvement ont été prises à l'encontre de ses collaborateurs, présumés impliqués dans ce que les autorités qualifient d'affaire de haute trahison à l'égard de la nation. Enfin, le ministère de l'Intérieur a pour sa part suspendu les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD, formation dirigée par le même Joseph Kabila.
Coup de tonnerre sur la scène politique congolaise, s'exclame Afrique.com.
Il s'agit là d'un basculement inédit dans l'histoire récente de la RDC, poursuit le site panafricain. Joseph Kabila, président de 2001 à 2019 et aujourd'hui sénateur à vie, était jusqu'à récemment resté en retrait de la vie politique active, mais son retour et les accusations portées contre lui pourraient bien faire voler en éclats l'équilibre fragile issu de la transition démocratique. À Kinshasa, pointe encore Afrique.com, certains hauts responsables vont plus loin encore, désignant ouvertement Kabila comme le cerveau de la résurgence du M23 sous l'étiquette AFC. Une accusation grave, lourde de conséquences, qui risque d'aggraver les tensions politiques alors que l'Est du pays reste en proie à de violents affrontements et à une crise humanitaire persistante. La question, maintenant, est de savoir, s'interroge Afrique.com, si la RDC a besoin d'un tel scénario à ce moment précis. Les mesures que s'apprête à prendre le pouvoir contre l'ancien dirigeant ne risquent-elles pas de créer plus de problèmes que d'en résoudre ?
Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la présence de Joseph Kabila à Goma, ville occupée par le M23.
Oui, d'après plusieurs sites d'information congolais, l'ancien président est dans la capitale du Nord Kivu depuis vendredi dernier. D'après l'un de ses proches, interrogé par le site congolais 7 sur 7, Joseph Kabila est venu à Goma comme ambassadeur de la paix et non pour adhérer à une opposition armée. C'est le début d'un marathon dans plusieurs parties du pays. Il n'empêche, analyse Afrique Arabia, site spécialisé sur la RDC, le retour d'exil de Joseph Kabila à Goma après un crochet par Kigali qui soutient les rebelles est un pari risqué qui semble confirmer la thèse de Kinshasa qui associe l'ancien président au M23 et au Rwanda.
Afrique Arabia qui s'interroge, quel rôle peut désormais jouer Joseph Kabila ?
L'ancien président est-il revenu pour initier une médiation dans le conflit à l'Est ? Souhaite-t-il consulter l'ensemble des forces politiques pour un dialogue interne ? Pour quelle finalité ? Peut-il rejoindre l'initiative des églises catholiques et protestantes ? Dans l'incertitude politique créée par le chaos sécuritaire à l'Est, un espace politique existe bien entre le M23 et Félix Tshisekedi. Joseph Kabila espère peut-être pouvoir s'y glisser dans le rôle du rassembleur. Reste, pointe encore Afrique Arabia, reste qu'au sein de la société civile, on garde un bien mauvais souvenir des années Kabila. Tripatouillage électoral, répression sanglante, corruption, prédation. L'ancien maître du Congo, qui a gouverné 18 ans sans partage, ferait davantage partie du problème que de la solution.
La presse ouest-africaine s'interroge également.
Que compte faire Kabila au juste ? Se demande le quotidien aujourd'hui à Ouagadougou. Quel est son poids réel sur le mouvement AFC M23 ? Que prépare Tshisekedi contre lui ? Va-t-il le faire inculper ou même embastiller ? Le Djeli à Conakry se demande si les mesures prises par Kinshasa contre Kabila ne sont pas de nature à isoler davantage le pouvoir congolais, qui a pourtant besoin d'un minimum de consensus pour faire face à la crise politico-sécuritaire. On le voit bien, conclut enfin l'observateur Palga, la RDC n'a pas mal qu'à sa rébellion à l'Est. Elle est aussi malade de la rupture d'alliance entre Tshisekedi et Kabila. Plus généralement, les politiques congolais peinent à trouver le plus petit dénominateur commun indispensable pour une vraie union sacrée du pays.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine. Vous revenez dans une demi-heure, Frédéric, pour la revue de presse internationale à la une, excès sur la sellette.
Oui, un mois après le scandale du Signal Gate, le secrétaire américain à la Défense est encore mis en cause dans une affaire de divulgation d'informations sensibles. Et puis, nous parlerons aussi de la visite à Mayotte d'Emmanuel Macron.
On en parle à 9h15 tout à l'heure après le journal. Merci Frédéric Couteau.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et c'est également à la une ce lundi 21 avril, le début de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Ça commence donc par Mayotte, territoire français dévasté par Chido, le cyclone. On y revient avec notre envoyé spécial à 9h. Et sur notre site internet, c'est à la une en ce moment. France, deux points, les enjeux multiples de la visite d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Rendez-vous sur le www.rfi.fr. Autre visite, celle de J.D. Vance, vice-président américain en Inde pour 4 jours avec dans l'idée notamment d'évoquer la guerre commerciale en cours. Des frappes russes ce lundi matin sur l'Ukraine, dans l'est et le sud du pays. La région de Dnipropetrovsk et celle de Mykolaïev, ça intervient quelques heures à peine après la fin de la trêve décidée par la Russie ce week-end pour les fêtes de Pâques. Une cessation des hostilités que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir violée. Le président américain Donald Trump a lui dit hier dans un message sur son réseau Truth Social espérer un accord dans la semaine entre Russie et Ukraine. Et puis l'armée israélienne qui a admis hier une erreur après une enquête interne menée sur la fusillade qui a coûté la vie à 15 secouristes palestiniens dans la bande de Gaza. C'était en mars dernier. Le Croissant Rouge palestinien parle lui d'un rapport mensonger et la défense civile palestinienne dénonce de son côté des exécutions sommaires et accuse Israël de chercher à contourner le droit international. En Centrafrique, à quelques mois de la présidentielle, ce sera en décembre prochain, le pouvoir veut ouvrir un dialogue politique avec l'opposition. Information RFI que nous confirme ce matin notre grand invité Afrique, le ministre conseiller spécial de la présidence, Fidèle Gwanchika. Mais alors avec qui exactement va se tenir ce dialogue et sur quel sujet? En ligne de Bangui, il répond à Christophe Boisbouffier.
Fidèle Gwanchika, bonjour.
Bonjour.
Le 4 avril dernier, l'opposition a organisé à Bangui une manifestation que vous aviez d'abord interdite et que vous avez finalement autorisée. Est-ce le signe d'une décrispation politique?
C'est le ministre de l'Intérieur qui a pris de son côté sans aviser le Conseil des ministres et qui a interdit cette manifestation. Et le président de la République a tapé du poing sur la table et a instruit le ministre de l'Intérieur d'accorder au BRDC leur marche. Et donc, je pense que c'est un signe continuel de décrispation parce que le président a toujours tendu la main à l'opposition dite démocratique.
En décembre dernier, le président Touadéra a exhorté les opposants à faire preuve de maturité politique, sous-entendu à ne pas boycotter l'élection de décembre prochain. Mais est-ce que cet appel à la raison ne serait pas mieux entendu si vous donniez votre accord à l'ouverture d'un dialogue politique ?
Écoutez, le président de la République vient de marquer son accord pour l'organisation d'un dialogue politique avec le BRDC. Mais le président de la République ne va pas s'asseoir avec les leaders de l'opposition démocratique autour d'une même table pour faire ce dialogue parce que ces opposants-là ne sont pas à son niveau. C'est le gouvernement qui sera appelé à les attendre et certainement d'autres institutions républicaines qui vont s'asseoir avec eux pour discuter de cette affaire-là.
Donc il y aura un dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition du BRDC, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution.
Bien sûr, il faut bien dire que 4 leaders de l'opposition demandent à ce qu'on revienne à la Constitution de 2016. Mais c'est une aberration, monsieur le journaliste. On a vu ça dans quel pays du monde?
Et au niveau du gouvernement, qui pourrait participer à ce nouveau dialogue politique?
Ben, on attend du BRDC les points qu'ils vont soulever pour que le gouvernement s'attelle déjà sur ces points-là.
Alors, l'une des requêtes de l'opposition, ce sont des élections inclusives. Et est-ce qu'au terme de ce dialogue politique, les candidats Anissé Georges de Loguélé, Crépin Boligoumba et Dominique Yandoka, qui sont actuellement binationaux, pourront être candidats?
Mais la seule condition, c'est qu'ils renoncent à leur nationalité le plus rapidement possible pour qu'ils restent dans le délai pour briguer la magistrature suprême de l'État. C'est simple. Prenez l'exemple du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du monde entier.
Donc oui, un dialogue politique.
Ben, le président a marqué son accord et on verra peut-être que c'est Fidèle Gwanchika qui conduira les pouvoirs publics comme d'habitude et on verra.
Donc vous pourriez diriger la délégation du gouvernement dans ce futur dialogue politique?
J'en ai la capacité et les compétences.
Si Faustin Archange Touadéra se représente au mois de décembre prochain et se fait réélire, est-ce que vous ne craignez pas que plusieurs opposants comme Martin Ziguélé ne dénoncent la présidence à vie d'un Bokassa sans empire?
Écoutez, son opposition, le BRDC le fait dans les chancelleries occidentales. Ils tiennent leur réunion au café de Paris. Il s'agit d'une élection inclusive. Il ne s'agit pas d'une présidence à vie. Il ne s'agit pas d'un Bokassa sans empire. Ça, c'est insulter la mémoire de Bokassa. Et voilà.
Alors, vous dites que l'opposition fait ses réunions dans les chancelleries occidentales et à Paris. Mais cette opposition réplique que vous êtes sous la tutelle du groupe russe Wagner qui pille les ressources minières de la République centrafricaine et notamment la grande mine d'or proche de Bambari.
Écoutez, ça, c'est un disque rayé. Vous savez très bien que la République centrafricaine a signé une convention militaire et économique avec la Fédération de Russie. Et les Wagner ont sauvé la démocratie de la République centrafricaine en évitant un coup d'État qui pourrait engendrer un génocide. Et nous ne sommes pas sous tutelle des Wagner. La Russie viendra avec nous. Nous allons commencer à exploiter nos richesses minières, nos pétroles. Et comme ça, la République centrafricaine sera dans un temps à moins terme un pays émergent.
Donc votre principal allié reste la Russie.
Mais nous avons la Russie, nous avons la Chine, nous avons les États-Unis, nous avons les pays arabes, nous avons le Rwanda, nous avons tous les pays de l'Afrique et nous avons encore la France qui cherche à revenir par la petite porte, qui invite ça et là le président Touadéra, qui pense qu'elle peut corrompre le président Touadéra. Non, 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 nous avons les yeux ouverts.
Monsieur le ministre, merci.
En ligne de Bangui, Fidel Gwandjika, ministre conseiller spécial en Centrafrique, il répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. Entretien retrouvé en intégralité sur notre site rfi.fr. Et comme chaque jour, on retrouve Maman à cette heure-ci. Maman, ce matin, vous nous dites qu'au Gondwana aussi, on célèbre le lundi de Pâques, mais d'une manière bien spécifique.
Oui, la très très démocratique République est un pays laïque dans la définition ouverte et universelle de la laïcité, à savoir un espace où toutes les religions peuvent s'épanouir librement sans autre contrainte que celle de respecter le vivre ensemble. Bon, ceci étant dit, on va quand même se dire la vérité, les amis. Le Gondwana est comme tous ces pays qui n'ont que la laïcité cité à la bouche, à toute heure, à toutes les secondes, à toutes les sauces. Ici aussi, il y a religion et religion. Certaines religions peuvent gambader gaiement, tandis que d'autres, elles ont intérêt à ne pas trop la ramener. En d'autres termes, tout le monde sait qu'en très très démocratique république, la mère de toutes les religions, ben c'est le culte à notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur, roi des rois, seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la vallée du Gondwana, religion d'État, croyance obligée, tu veux ou tu veux pas. Par contre, toute autre religion dissidente et rebelle, un tant soit peu plus ou moins proche de l'opposition politique gondwanaise, est une religion dangereuse pour ses croyants, qui ne sont rien d'autre que des païens hérétiques qu'on doit extirper de notre belle et chaleureuse patrie. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en très très démocratique république, on célèbre aussi la fête de Pâques strictement selon l'évangile de président fondateur. Par exemple, dans la Pâques gondwanaise, hors de question de parler de mort ou de résurrection, puisque vous le savez, notre leader bien-aimé est immortel et incandescent est son règne. Et, autre différence, au Gondwana, Pâques se fête tout le long de l'année. Ouais, spécialement le côté ludique de cette fête sainte, c'est-à-dire la chasse aux œufs de Pâques. Ben oui, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cette tradition catholique, sachez que des œufs en chocolat sont cachés dans le jardin que petits et grands s'amusent à débusquer. Au Gondwana, c'est toute l'année que les Gondwanais passent le temps à chercher, non pas les œufs de Pâques, mais la date des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, locales et autres. Notre leader bien-aimé a bien caché ces dates. On cherche, les électeurs cherchent toute l'année et ne trouvent pas. Haha, président fondateur nous le dira quand il le voudra, quand il sera trop tard pour les autres, mais pile poil à temps pour lui. Mais une fois la date des élections trouvée, ben la chasse aux œufs de Pâques continue encore, mes amis, surtout le jour du vote, où les électeurs gondwanais de l'opposition cherchent leur bureau de vote comme les enfants cherchent les œufs de Pâques. Revenez l'année prochaine, mes amis, ici même, on célébrera encore Pâques en toute communion. À demain.
Merci Maman, et à demain, comme chaque jour, on vous retrouve juste avant 9h sur RFI. On reste ensemble dans un peu plus d'une minute. Le journal international, l'Ukraine à la une, alors que de nouvelles frappes russes sont rapportées ce matin. Reportage à Kiev, à suivre dans ce journal de Martin Guez.
L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique organisent le 29 avril prochain le forum Investir en Afrique autour du thème l'entreprise, moteur d'une croissance durable. Un événement incontournable pour explorer les opportunités économiques et sociales du continent avec un focus sur la croissance durable. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Opinion, rubrique événements, le 29 avril prochain à Paris, en partenariat avec RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
C'est un mystère qu'il ne s'explique toujours pas. Comment, dans la France d'après mai 68, un poète surréaliste et une danseuse des Folies Bergères choisissent d'inscrire leur fils dans un établissement d'excellence. Simon Liberati et ce fils, il raconte dans Stanislas, 11 années de bagne.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI. Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.